She owns her eyes and she flies high through the sound, moving her body all around town. Hey, man, hey, man, I know you are, I know you are, I know you are. Sooner. Radio G 101.5 FM.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, il est 19h. Et comme tous les lundis, de 19h à 20h, c'est le moment de la case de Seb, votre moment de bande dessinée, de 9e art, de plaisir, de comics, de manga, un petit peu de tout ça, et surtout la joie de nous avoir nos charmantes voix au téléphone, à la radio, avec mes chers amis Bertrand et Tony. Salut les gars, ça va bien?
Bonsoir.
Oh la vache, c'était en synchronisation,
c'était phénoménal, un petit effet choral
des professionnels, cool. Ça super.
La case de Seb, c'est quand même l'émission où même fatigué, on vient quand même.
Ouais, c'est un peu ça.
Juste pour vous. Et là, on est vraiment sur les rotules. Enfin, Tony, tu partages mon opinion.
Ah moi, je suis claqué moi, mais du coup, non, mais on va le faire,
On va y arriver.
Et on va bien le faire.
C'est là, on est les meilleurs.
Faut déjà que j'arrive à brancher mon casque correctement.
Parce que tu ne t'entends pas.
Non, et du coup, j'espère que les gens n'entendent pas le grésillement.
Ouais, c'est ce que je me disais aussi.
Tu l'entends pas?
Non, moi, j'entends pas de grésillement.
Et nous, on entend un mort, quoi. Mais là, ça va mieux.
C'est dans le truc, là.
Ça, là, lui?
Ouais. Le mixeur, je sais pas comment ça
s'appelle. Le truc, ça s'appelle un répartiteur.
C'est pas un mixeur, Bertrand.
On espère que vous avez
passé
un bon week-end et que vous en avez profité pour venir au festival en GBD. Je sais que vous attendiez uniquement ça, ou alors peut-être juste l'émission pour connaître les lauréats des prix qui étaient décernés au festival. Il y avait bien entendu. Ah ouais, c'est ça, c'est la France.
Ça y est.
Nous avions le prix Première Bulle en GBD West of France qui a été décerné à Liot Rimbaud sur les tambours de Srebrenica.
Un ancien élève.
Yes. Même. Comme quoi.
Hein, ça, c'est, ouais, tu vois, comme quoi ça a servi tout ça.
Tout ce que tu touches se transforme en or. Ah, pas touche.
Non,
pas
bah touche. Non, pas tout. Non, mais là, c'est chouette en plus. C'est vraiment.
C'est l'histoire du village, non?
Hein?
C'était quoi celui-là?
C'est les tambours de Srebrenica.
Sur le mot me fait peur, le massacre.
Ah oui, c'est vrai, je me souviens, c'est bon.
C'est oui, pas le petit village de campagne. Hein.
Oui, ouais. Voilà, non, je vois là.
Nous avions également le prix des bibliothécaires du département de Maine-et-Loire. Alors, le prix jeunesse a été décerné à Yasmina et les mangeurs de patates de Wouter Mannert, et qui n'a malheureusement pas pu être présent lors du festival pour cause de grève de train. Et puis, nous avons également eu, toujours dans le prix. Pardon, le prix des bibliothécaires du département de Maine-et-Loire, le prix auteur qui a été décerné à Vincent Perriot pour Négaliode. Tout était méritant.
Oui, bien sûr. Bah,
c'était super cool. Voilà.
Non, mais très voilà. Bien, là. J'étais en train d'essayer de réfléchir. Alors, en fait, à des prix pas méritants. C'est...
Ah si. Non, mais enfin voilà. Même ceux qui. Enfin, c'est ce que
moi,
je disais.
Moi, j'allais dire que mes favoris n'ont pas gagné, mais bon, c'était égoïste, quoi.
T'as qu'à avoir de meilleurs choix.
Bah voilà, c'est ça. Dis... Bah,
non.
Remets-toi en question, Bertrand.
C'est exactement.
Pour modérer un petit peu.
T'avais le même choix que moi.
Pas du tout.
Tous ceux qui étaient dans cette sélection déjà étaient des albums extrêmement qualitatifs. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'il ne faut pas les lire. Parce
non.
Que,
non, bien sûr que non. Non. Ce qui est horrible pour la petite histoire, c'est que j'étais à côté de Damien au moment de la remise des prix. Je lui ai dit, putain, mon gars, c'est toi, c'est obligé, quoi. Et je me suis tellement planté. Et il m'a dit, tais-toi, tu vas me porter la guigne. Et du coup, il m'en tient rigueur.
Et il t'en... Ouais, à ce moment-là.
Mais non, absolument pas. Non, d'autant que c'était voté depuis quelques temps déjà, pas du tout en plus, Damien. Non, mais après, il est nominé pour le festival d'Ancenis. Donc voilà, c'est pas déconnant. D'un festival à l'autre, on retrouve quand même
des choses de qualité. Et...
Des constantes entre les sélections. Et voilà, il est dedans. Et je lui souhaite le meilleur, mais je vais pas faire de pronostic.
Je veux pas enlever le mérite aux personnes qui ont gagné, hein. Mais à mon sens, c'est certainement plus intéressant d'être nominé dans plein de festivals que d'être lauréat d'un seul.
Oui, effectivement. Effectivement.
C'est une preuve de qualité derrière.
Je pense que le lauréat fait grave plaisir quand même.
Ouais, carrément, je pense.
Ça console.
Alors, j'ai pas beaucoup de news, mais j'en ai quand même deux petites. Une qui a été assez rigolote, puisqu'on en a parlé, ça a été un monument en fait de bande dessinée, une œuvre écrite et dessinée au stylo bille. Tu vois de quoi je veux parler ?
Ouais, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture avec Moi ce que j'aime chez les monstres.
C'est ça.
C'est les monstres, pardon.
Donc ils ont fait une édition ultra limitée.
Ultra chiadée, ouais.
Ultra chiadée. Et il y a plein de gens. 70 euros.
Ouais, mais enfin, en même temps, moi je l'ai eu entre les mains. Il est juste magnifique.
Limité en fait, à combien d'exemplaires ? Tu sais ou pas ?
3000, je crois.
3333.
3333, parce que du coup le chiffre est pas hasardeux. Et il y a une flopée de gens qui leur demandent s'ils vont rééditer. Et ils ont dit nah.
Mais non, parce que du
ça
coup,
a aucun intérêt finalement.
Le principe d'une édition limitée, ben voilà. Effectivement, c'est de la limiter. Et ouais, non, effectivement, rien que la couverture, elle est fabuleuse. Hein, c'est un truc.
Non, mais pas que la couverture, il y a plein de trucs. En fait, il y a des carnets supplémentaires à l'intérieur. Il y a un papier qui est de qualité, mais d'une force. Enfin, voilà, c'est un très très beau bouquin. C'est pas du tout étonnant que même à 70 balles, il soit parti. Parce que bon, du coup, l'objet est quand même déjà en soi
magistral. Le bouquin de base est.
Oui, bah, c'est ça. Mais après, quand tu compares les deux, tu dis bon, oui, quand même. C'est vrai que, voilà, du coup, il n'y a pas tant d'écart que ça, finalement, parce que je crois que le premier était à 25 ou quelque chose comme ça, 35 peut-être ?
Non, peut-être un peu plus.
Peut-être 35, ouais. Mais enfin, tu vois, on passe du simple au double avec un objet vraiment, vraiment qualitatif. Donc, ouais, Monsieur Toussaint l'ouverture est en train de gagner des points.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est leur principe de communication, c'était non, on ne le refera pas, parce qu'effectivement, ça paraît à tout son principe. Et il y avait le petit lien derrière sur toutes les librairies qui pouvaient en avoir encore
disponibles. C'est plutôt chouette, ouais.
Donc... Bah, si vous voulez encore vous procurer cette espèce d'OVNI, OSNI, objet séquentiel non identifié, allez-y. Et vraiment, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est un truc fabuleux et faut y aller. Autre petite news qui a été annoncée par les éditions Bragelonne via leur label iComics, c'est prochainement sur Netflix une adaptation que je n'attendais plus, qu'on avait annoncée comme balancée à la flotte parce que le pilote il était tout moisi. Et cet officiel débarque le 7 février sur Netflix, l'adaptation du... mince, de Joe Hill, à savoir le fabuleux Lock and Key, qui au final va débarquer en série. Alors, je vous avoue que moi je suis tout fébrile. S'ils se sont ratés, je vais vraiment l'avoir mauvaise. S'ils ont fait du bon boulot, ça peut être quelque chose d'assez excellent. Et graphiquement, il va falloir qu'ils aient fait quelque chose de un effort très particulier, parce que ça avait quand même une identité graphique extrêmement forte. Et c'était Gabriel Bas qui a fait le...
Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a autant de chances de se planter que de faire un truc bien en fait. Hein.
Ouais.
Avec un matériau d'origine comme ça.
Donc, est-ce que du coup, le fait qu'ils aient balancé le pilote à la flotte était un effet d'annonce pour dire ah non, on le fait pas et en fait, on va vous avoir.
Mais ben, peut-être, on sait jamais. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai vu sans parler de pilote, enfin, en tout cas, d'image qui bouge. Il y a cette image qui est assez glaçante et qui est assez réussie finalement, où tu vois une femme de dos. Enfin, c'est ce qui annonce. Hein, c'est un teaser. Je sais pas comment on dit, une teaser image. Enfin, voilà. Et du coup, elle a une clé dans le cou, en fait. Elle a, la nuque est une serrure, sa nuque est une serrure, il y a une clé dans son cou. Et ça marche diablement bien à la manière de ce qu'avait fait comme image American Horror Story en son temps.
T'as identifié une femme, moi j'ai identifié un enfant.
Ouais, pour moi c'est
parce
une femme.
Parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est cheveux courts.
Montrez-moi. Alors, ouais, peut-être, ouais, j'étais parti sur une femme, moi. Pour moi, c'est une nuque de femme.
La clé est parfaitement reconnaissable pour ceux qui ont lu
bien sûr, tout à fait.
Le comics. Et du coup, rien que la clé est ultra réussie.
Ça pourrait être la maman, hein.
Ça peut être beaucoup de monde.
Oui, c'est ça.
Mais écoutez, wait and see, puis wait très très vite, parce que du coup, là...
wait très très vite.
Ça va faire des choses, c'est pas février aussi, la saison 2 de The Boys ?
Saison 2 de The Boys, il me semble qu'il y a une...
Teddy, ton avis ? Non, t'es pas là.
Comment ?
Non, je demandais à Teddy son avis,
non,
mais
ça fait longtemps que les frères Pétard sont pas venus, là,
les frères Pétard. Fais un coucou à Gros Pépère. non, mais ouais, je sais pas la date. Mais du coup, ça s'est fait partie des trucs.
Je crois que c'est bientôt, c'est imminent. Il y a un trailer par contre qui est tombé là sur The Boys 2. Ouais.
Alors, en trailer qu'on a pu avoir, du coup, aucun rapport, il y avait Bond. Mais il y a un trailer pour Wonder Woman 2.
Oui, qui est tombé assez récemment.
Années 80. C'est,
il se fait un peu foutre de lui, j'ai l'impression.
Ah.
Il fait un peu la risée, en tout cas sur Facebook. J'ai vu pas mal de trucs passer qui se moquaient de ce trailer. Après, c'est un peu l'époque qui veut ça aussi, hein, donc
ouais.
Donc oui, oui, effectivement, tous les trucs en rapport avec la BD, je crois qu'on a fait le tour de ce qui est... À moins que j'en ai oublié,
si,
évidemment.
On a eu le trailer de Scarlett, de Black Widow.
Black Widow, ouais, effectivement.
Qui donne plutôt envie.
Avec l'acteur de Stranger Things.
En mode... c'est Red Guardian.
Red Guardian, bah, c'est l'équivalent russe
de Captain America.
De Captain America, ouais.
Ouais.
Red Guardian vieillissant.
Ouais, vieillissant, où on a cette petite blague où il a l'air engoncé dans un costume un petit peu trop court et il est ultra content de rentrer encore dedans.
Oui.
Mais il y avait déjà, à mon avis, ça va être très drôle.
Il y avait déjà ça dans Stranger Things 3. L'acteur accepte de se moquer de son embonpoint. Il a raison.
Voilà. Bon. C'est tout pour les news, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'était bien, ouais.
C'est cool. Ton retour sur le festival, juste pour le plaisir, comme ça.
Mon retour global ou mon retour pour moi?
Global, un peu des deux.
Global, je sais pas. Enfin, sur le
t'as pas beaucoup bougé en fait d'un endroit très spécifique.
Mais
du festival.
Si, j'ai essayé d'osciller entre ma table de dédicace quand même pour éviter que les bénévoles se soient fait chier à poser une table pour rien. Après, c'est vrai que c'était plus pertinent d'être à côté de l'escape game qu'on proposait. Enfin, l'escape game, on a arrêté d'appeler ça un escape game.
Le trouve la clé.
Le trouve la clé parce que ça ne parle pas aux enfants, escape game. Et ce sont les enfants qui sont les premiers usagers de ce qu'on a proposé, un super gros carton pour nous, pour Pauline et moi. Puis les enfants étaient ravis, quoi, les parents aussi. Ça n'a pas désempli hein, du tout le week-end. Le samedi matin, ça a commencé un peu plus tardivement. Je pense que les gens découvraient tout simplement. Et puis après le dimanche, voilà, c'est spontanément les gens arrivaient comme ça. Et puis on avait mis en place un système de réservation qui nous a un peu sauvé la vie, mais qui a fait pas mal de déçus, quoi, parce que le dimanche soir, jusqu'à aller quasi 17h30, il y en a qui arrivaient, qui voulaient le faire, et peut-être que le bouche à oreille à l'intérieur du festival a joué en notre faveur.
Beaucoup.
Mais voilà, donc il y aura d'autres dates, hein, parce que voilà, ça a été un rendez-vous qui a été. Il faut savoir quand même que sur les festivals, il y a beaucoup de gens concernés qui passent. Il y a les visiteurs lambda, les gens qui aiment la bande dessinée, les gens qui découvrent la bande dessinée, mais il y a aussi des bibliothécaires. Il y a également des organisateurs de festivals. Des contacts ont été pris, des touches sérieuses et intéressantes sont prises pour des festivals ultérieurs. Et on est très contents parce que du coup, c'était un peu l'ambition. Voilà, donc ça plaît. C'est une manière aussi de parler d'une bande dessinée de manière différente, en fait, qu'une expo dans sa forme classique.
Beaucoup plus ludique.
Voilà, puis là, ça s'y prête bien.
On est immergé dans l'album en tant que tel. Un truc vraiment bien. Donc, le Trouve la clé, Touring Tour, Félicite Roule, Félicite Rouille.
Félicite Roux. Non, on n'a pas de. Enfin, si, on a la date du Festival de Chalonne, qui est un festival local, encore une fois, qui n'est pas très loin d'ici. On est à une demi-heure de route d'Angers. Et puis très très certainement Château-Gontier vers la fin de l'année. Et puis d'autres festivals à venir, quoi. Puis, on n'a pas encore commencé la campagne de com, donc on verra après par la suite ce que ça va donner. Merci en tout cas, parce que du coup, l'accueil était très bien et ça nous a permis effectivement de le présenter une première fois. C'était un peu le baptême du feu ce week-end après un bêta test qu'on avait fait le week-end précédent pour éviter de se planter complètement. Alors on se serait pas planté complètement, mais bon, c'était quand même bien d'affiner 2-3 trucs.
Il y avait de bonnes bases,
des petites choses. Ouais, il y avait des bonnes bases, mais bon, voilà, c'est pour être fin prêt pour le week-end dernier, pour celui qui est passé, celui qui s'est terminé hier. Fallait quand même qu'on passe par là et c'était pas une mauvaise chose. Donc merci à tous ceux qui sont passés pendant le week-end et qui ont pas mal relayé sur les réseaux sociaux apparemment. Alors moi, c'est pas des gens dont j'ai le contact, mais du coup, il semblerait que c'est plu et que les gens en aient parlé. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. En plus du gros sourire des enfants quand ils sortent et qu'ils en reparlent à leurs parents ou à nous-mêmes, quoi.
Parfait.
Voilà. Après, pour le reste, non, moi j'ai trouvé que c'était une belle édition. Alors c'était le grand 20e, ça c'est toi, tu pourras en parler plus facilement que moi. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même plus de monde et qu'en termes de dédicace cette année c'était énorme, quoi. C'était presque trop.
Alors ça a l'air d'avoir bien fonctionné, j'ai pas tous les chiffres encore.
Ouais.
Puis j'attends en fait de finir un petit peu toute cette paperasse un peu comptable.
Ah bah ça.
Mais effectivement, je le dis et je le redis, tous les voyants étaient au vert. Il n'y a pas de raison que l'édition se soit mal passée, malgré en fait tous les petits soucis qui ont pu émailler ce week-end. Alors pas forcément à notre niveau, mais au niveau national, hein. On n'a pas eu vraiment à en pâtir malgré quelques annulations. Et du coup, ça a été plutôt un bon festival, une ambiance extrêmement chaleureuse, tout le monde était convivial et rien eu à dire, vraiment.
Et les auteurs qui étaient là ont quasi... Enfin, moi, j'ai pas pu trop décoller le nez de ma table, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais j'ai eu l'impression quand même que tout le monde avait dédicacé. Et...
C'est clair. C'était...
Et en général, ça, c'est bon pour l'ego et le moral. Enfin, pour
ça
nous
fait
autres,
plaisir,
en tout cas.
Ouais, ouais, c'est clair. Bon, eh ben, rendez-vous l'année prochaine, hein,
ouais.
Si n'hésitez pas.
Je peux même pas parler des expos, parce que je les ai pas vus, les autres, en fait. C'est terrible, hein, mais j'ai à peine eu le temps d'aller voir Mathieu Reynès. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde, parce qu'on était géographiquement juste à côté, donc il y a plein de gens
passé,
qui sont
ouais.
là. Et Reynès avait du monde en permanence en dédicace, mais ça, on n'est pas tellement étonné en fait.
Non, c'est clair. Bah, puis ça, c'est quelqu'un qui était en plus extrêmement gentil. Alors, non pas qu'il y ait des auteurs pas gentils. Hein.
Non, mais il y en a peut-être qui sont moins faciles que d'autres, on va dire. Mais ça, c'est normal, c'est dans l'être humain.
Ça fait partie du jeu, je dirais.
Mais moi, j'ai pu faire quelques petites rencontres, tu vois, malgré le fait que c'est pas le festival idéal pour ça. Parce que comme on est locaux... On est un peu grégaire aussi, donc on se met un peu avec les gens qu'on connaît, on se mélange moyennement. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec Nicolas Begg, qui est un mec adorable du coup, et en rencontrer quelques autres aussi, même si j'en connaissais quand même pas mal. Voilà, il y a eu des belles rencontres.
L'occasion de faire effectivement de belles rencontres,
ouais.
Puis de pouvoir acheter quelques albums, ce qui nous permettront d'en discuter prochainement. Moi j'ai un copain qui était là, et je lui ai pris son album Break, le fameux Cédric Liano.
Oui, c'est vrai quoi.
Ce sera l'occasion d'en parler sur les ondes, parce qu'effectivement c'est un album qui mérite.
Alors lui, dédicacé à la bombe en fait, faut le savoir.
Ouais,
hein.
À la bombe de peinture. Dans l'esprit graphe en fait, qui correspond à la culture hip-hop développée dans le bouquin.
Alors par contre il a pris des bombes qui ne sentent pas, je sais pas où il a trouvé ça, mais du coup...
C'est des bombes de gouache en fait.
D'accord, ok. Donc c'est pour ça que ça poque pas, parce que je me suis dit il va asphyxier tout le monde quoi,
on pourra en reparler, mais ils ont eu des échecs un petit peu malheureux sur les premiers albums colle en fait.
Ah bah oui, bizarrement.
Donc du coup tu fermais et tu pouvais pas décoller ta dédicace, donc t'avais une super dédicace que tu ne pouvais plus regarder parce que c'était autocollé.
Mais c'est la base ça, de pas fermer la...
Oui, mais enfin les anciennes bombes en fait, même après un certain temps en fait, ça collait. Donc là maintenant ça colle plus.
Cédric Liano.
Ah non, mais c'était un truc génial. Non, et puis on aura l'occasion éventuellement de parler d'une BD sur un cow-boy un peu tout pourri.
Ah bah avec plaisir.
C'est l'occasion.
Pas tout pourri, il est tout alcoolique, c'est pas pareil.
Il est imbibé. Mais ce sera l'occasion, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup Dominique Enbo.
Ouais.
Et je le salue parce que ce fut une belle rencontre.
Ouais, c'est un mec génial.
Et surtout, t'arrêtes de fumer, promis.
Ah oui, j'aimerais bien qu'il arrête de fumer.
Bon, c'est pas tout, hein, parce qu'on n'est pas là juste pour parler du festival, on est là pour parler de bande dessinée. Est-ce qu'on se fait une petite chronique avant une pause musicale et puis,
Alors moi ce soir j'aurai pas de chronique écrite, hein, je vais pouvoir parler de choses et d'autres. J'ai ramené plusieurs trucs parce que bon, comme on était pas mal occupé ce week-end, j'ai pas vraiment eu le temps d'écrire quoi que ce soit dans le week-end. Et puis aujourd'hui j'étais quand même pas mal fatigué.
Avec la chronique un peu freestyle.
Non, pas forcément la chronique freestyle. Bah, c'est jamais freestyle, mais du coup, des choses que j'ai lues et que j'ai appréciées ces derniers temps et dont on peut parler. Après, est-ce qu'on peut en parler maintenant ou à un autre moment? Après, il y a Bertrand qui est dans les starting blocks. Bertrand, faut le savoir, en fait, c'est pas radiophonique de dire ça, mais il a amené son PC. Il est chaud.
Tu sais pourquoi j'ai ramené mon PC? Parce que j'avais fait ma chronique la semaine dernière.
T'as plus d'imprimante.
Et je l'ai jeté à la poubelle.
Quoi, la chronique?
Ouais. Bah, j'ai jeté mon papier, genre j'ai fait le ménage chez moi parce que voilà, j'étais obligé de faire le ménage par certaines personnes. Et du coup, j'ai jeté beaucoup de papier à la poubelle, dont ma chronique.
D'accord.
Et donc, j'ai dû la réécrire rapidement hier soir. Et vu que j'avais la flemme d'écrire à la main, j'ai écrit au PC.
Ah, tu l'avais pas sauvegardé?
Non, j'avais écrit en papier, manuscrit.
Non, mais Bertrand, on est en 2019, bon sang.
Mais ça fait du bien d'écrire
de temps
en temps.
N'hésitez pas à vous renseigner de savoir quand est-ce que Bertrand fait le ménage. Vous pouvez fouiller les poubelles. Il y a peut-être des billets, il y a peut-être des trucs
qui traînent.
Il trie, il balance tout. Tu seras le premier à passer du coup, mais après
allez.
Une petite pause musicale.
Allez.
J'avais envie.
Allez pour la pause musicale.
J'avais envie de mettre un vieux morceau qui moi me plaît toujours autant. Je vous ai mis Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Et c'est parti maintenant, je crois. C'est parti. Ou pas. Non. Si c'est bon. Show they've Allez, si ça te rend heureux, écoute le son 1.5 de Radio G. C'est la case de Seb. Ah bah oui, non, mais en toute modestie. Hein. Non, mais...
Allez, si ça te rend heureux.
Allez, et puis Bertrand, bah, si ça te rend heureux, fais-nous une chronique.
Allez, bah, on est parti. Alors, pour mon grand retour dans le monde des chroniques, j'ai fait une phrase d'intro.
On parlait de Boulard hein, juste avant, et là, bim.
Le grand retour. J'ai choisi de vous parler du manga que j'apprécie le plus lire en ce moment.
Yes.
Initialement nommé, attention, Toshoka no Daima Jutsuchi, que l'éditeur a renommé en Magus of the Library, Misu
ouais,
Izumi,
non mieux,
c'était propre,
mieux.
Oui c'était mieux Magus
ouais, c'était propre, ouais.
Ouais, bien sûr. Misu Izumi revient avec une série de fantasy presque contemplative avec comme sujet principal la littérature, les livres et la culture. Ayant été très bien formé dans cette radio et étant grand fan de Tony, je vais commencer par le résumé de l'éditeur. Le résumé.
Le résumé.
Le livre.
Non, il est pas là, s'il te plaît. Ne le ramenez pas. On l'embrasse, hein, par la même occasion.
Ouais.
Parce qu'il doit écouter à tous les coups.
On lui fait un bisou.
Ouais.
Le livre. Une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens. Un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour. Protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio qui passe son temps libre, plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses voeux, depuis si longtemps, est-il sur le point de se réaliser? Dès la couverture de ce premier tome, Magus of the Library dégage une aura enchanteresse et semble s'imposer comme une invitation à l'aventure, à l'évasion, à l'imaginaire. L'entièreté de ce premier opus est une ode au livre et à la littérature dans son ensemble. L'amour de la lecture est tout simplement symbolisé par la lecture elle-même, celui qui invite à découvrir tout un univers qui tranche de notre réalité et qui a pour but de pouvoir voyager et rêver. Personnellement, le plaisir principal que j'ai trouvé à lire ce premier tome, c'était, il faut le dire, visuel. Le mangaka a un style dense et très expressif. Les pages sont chargées de détails, mais de beaux détails. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit les paysages, les personnages ou encore les beaux animaux fantastiques. Au fur et à mesure des pages, on est percuté de plein fouet par le talent de Misu Izumi. Je vous ai mis vous l'avez déjà vu à la pause, je vous avais mis un marque-page avec plusieurs passages qui m'ont personnellement beaucoup marqué, et notamment donc, le second.
Ouais.
Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Ouh là là, que ça, du bien, que du claque. Bien, tu plaisantes ou quoi? Non mais attends. Non, si, c'est
et bah, franchement, après, quand vous croisez cette double page, vous êtes, vous dormez bien, votre imaginaire est nourri pour la soirée. Petit bémol qu'on peut apporter peut-être à cette série, c'est le côté non original du héros de sa quête. Shio est trop gentil à mon goût, et le petit enfant pauvre qui veut quitter son village pour rejoindre la capitale, bah, personnellement, ça sonne comme du déjà vu. Par contre, le rythme très lent proposé par l'autrice sert parfaitement son récit. On avance lentement avec Shio, on vit l'aventure à ses côtés. Quand il réparait un livre, je m'imaginais à ses côtés l'aider. Quand il était triste, moi j'étais triste. Quand il souriait, c'est moi qui étais heureux comme si j'avais réussi à le faire sourire. Côté livre, on a un objet lui aussi très fin et très travaillé. Chaque tome est bien épais et le papier de la couverture rappelle ces vieux livres qu'on pouvait trouver dans les bibliothèques de nos grands-parents. Bon, désolé Sabetoni si vous avez que ça chez vous. Magus of the Library compte aujourd'hui 3 tomes et ne semble pas vouloir s'arrêter de ce pas tant l'univers proposé par Misu Izumi s'étoffe à chaque tome. Plus que les amoureux des livres, ce sont les amoureux d'aventure et de voyage qui seront charmés par ce premier opus. Donc c'était Magus of the Library, c'est publié chez Kiun, et aujourd'hui il y a 3 tomes qui sont sortis en France pour le moment.
Alors tu parlais de la couverture, il y a une espèce de grain...
Ouais, au toucher il y a un truc étonnant.
Faites voir ça.
Voilà.
Ce sont des champignons, tout simplement. Non, c'est une mycose de livre. Non, mais oui, bah, y a un espèce de travail sur... mais je pense que c'est plus ça donne un aspect bâche, quelque part.
Un petit revêtement.
Mais justement, ça, je pense, ça essaie de rappeler les vieux livres. Comme
oui, c'est ça, les jaquettes. En plus, ouais. Ça doit être plus costaud que les jaquettes habituelles.
Ça doit un peu moins morfler,
un peu moins vite. C'est un bel objet, monsieur.
Et tous les tomes sont couleur dorée, comme ça.
Alors peut-être que c'est juste nous, en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de travail sur les jaquettes des mangas. Avant, on avait une simple jaquette en plastique, un papier un peu brillant. Qui était rabattu comme ça. Et là, on a des choses qui sont de plus en plus travaillées, que ce soit
quand
sur
tu vois
les
Naruto,
montagnes hallucinées.
Ou One Piece à l'époque, où les jaquettes, voilà. C'était. Il n'y avait rien en fait.
C'était la jaquette.
On achetait l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de.
autre temps, autre mœurs, comme on dit. Ouais, mais après, peut-être que le lectorat aussi s'oriente plus vers des choses un peu plus chialées, comme on peut le voir dans la bande dessinée européenne, par exemple.
Yes.
Où tu as de plus en plus de romans graphiques. Tu vois, tu parlais de Monsieur Toussaint l'Ouverture tout à l'heure avec Moi, ce que j'aime chez les montres. Les gens commencent à apprécier les beaux bouquins, quoi. Et c'est peut-être ça. Que là, on
il y a tellement de concurrence que quand t'as une panoplie de mangas comme ça devant toi, tu
sans doute, ouais.
Automatiquement, tu pars sur lui. Quoi.
Est-ce qu'on est sur une série courte ou pas?
Bah, trois tomes. Je te dis là, il est sorti en 2017.
Ouais, trois tomes sortis, mais du coup, c'est pas fini.
Ah, je pense pas que ça va s'arrêter.
Ouais,
ça,
voilà, c'est
ça. Il y a un univers énorme.
Ouais, j'avais cru que c'était. Voilà.
Mais en tout cas, c'est de la bien belle ouvrage.
C'est Mitsui Izumi, c'est son troisième manga, donc je pense que ça va être une série plutôt longue. Souvent, vers le troisième manga, ils commencent à faire des choses. Ils ont fini leur one shot. Mm-hmm. Ils font leur vraie série.
Ils sont un peu plus expérimentés, dirons-nous.
C'est ça. Et Mitsui Izumi était connu, si vous regardez un petit peu son historique, pour des dessins de jeunes femmes en petite tenue, dénudées, un peu érotiques.
Pourquoi t'as pas commencé par là?
T'écris ça comment?
J'ai vu ça. C'était marrant qu'elle passe de ce chose-là à quelque chose de très pur. C'est vraiment très pur. Il y a rien de sexuel là-dedans.
Ça arrive à des gens très bien. Hein.
Oui, bah, je sais.
C'est une autrice.
Une autrice, ouais, c'est une autrice. Oui. Ouais. Ah, c'est il l'a dit pendant la chronique, hein, si t'avais un temps soit peu écouté.
La mangaka, l'autre.
Je m'occupe de technique, je ne peux pas tout faire.
Il y a le mec qui essaye de ralentir la
non, non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rare en fait, d'avoir une autrice qui partait de choses érotiques.
Oui, c'est vrai que chez les hommes, c'est plus. Beaucoup d'hommes qui sont démarrés là-dedans et qui ont fait des choses propres après.
Mais après, non, je le dis souvent parce que c'est un truc
du côté
qui
clair.
Ouais, et puis bah, du coup, ouais, à un moment, tout correspond à un moment donné à des
oui,
moments,
oui.
À des attentes, à des ambitions. Et puis après, il y a
peut-être dans quelques années, elle va refaire une œuvre de ce style-là.
Je pense que tu reviens toujours, je sais pas, il y a une espèce de plaisir aussi. Je sais pas si c'est l'idée d'être transgressif ou quoi que ce soit. Ou... Non, mais après, faut pas s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, quoi.
Non, mais j'avais dit ça dans le sens où ça m'avait marqué de voir
oui,
une
bah
chose
oui.
aussi pure aussi. Voilà.
Parce que là on est sur du tout public. Hein.
Ah, vraiment du tout public. Il n'y a pas un seul, même pas l'ombre d'une hanche ou de quelque chose qui pourrait
oui,
étiller l'érotisme.
qui pourrait attirer tout un lot de lecteurs malveillants.
Il n'y a rien du tout et son passé.
C'est très beau en tout cas, c'est très fin. Hein, ouais. Si je peux apporter une petite. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Du point de vue graphique, on va dire, hein, du coup, non, je trouve ça très fin. Non, je trouve ça très fin. Tu sais, c'est pas du. Alors après, on en voit de moins en moins, mais.
C'est hyper détaillé.
Un noir et blanc brutal, comme on peut le voir dans certains mangas. Du coup, c'est
et ça prend du temps à lire, en fait. C'est un manga qui prend beaucoup de temps à lire.
Mais je trouve ça joli, quoi. J'ai pas d'autres mots, en fait. Je suis pas un grand spécialiste
du manga. Il y a pas grand chose d'autre à dire, en fait. C'est juste beau.
Ouais, c'est ça, ouais.
Parfait.
Non, c'est beau. Puis il y a vraiment des doubles pages.
Je cherchais un petit manga à offrir à votre fille.
Ouais, ça
très pur, très pur.
Ça sent Noël, ça quand même, parce que du coup, c'est un bien beau bouquin.
Ouais. En plus, ouais, c'est un gros bouquin parce qu'on a la peur d'offrir quelque chose de trop petit, quelque chose comme ça. Bien épais,
c'est un bon pavé.
Ouais. Quelques heures de lecture en perspective.
Ouais, forcément, y avoir un coffret bien chadé à un moment donné, parce que là.
Des centaines de cadeaux à gagner.
Ils ont soigné la maquette et tout.
Il y a même un concours, c'était sur le tome
1.
Jeu.
Bon, après, c'était à l'occasion des 15 ans, et Sion Ki-hoon, je l'ai depuis un an, je pense.
Donc effectivement, le concours, sans doute,
ça doit être perdu, le concours.
Denis, est-ce que tu veux enchaîner sur un truc un petit peu moins.
Non.
Moins sage?
Ah oui, moi, je veux bien. Après, j'ai du sage et du moins sage, mais apparemment, t'as plus d'appétence pour le moins sage. je voulais vous parler des cahiers de vacances de Noël.
Pour l'adulte.
Alors, pas que, en fait, du label 619. Hein, si vous connaissez un tant soit peu les productions du label 619, vous savez qu'ils ont fait leur réputation avec des bandes dessinées qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, évidemment. Et là, du coup, c'est le cahier de vacances de Noël. Pour adultes, geeks et déviants. Donc, ils annoncent la couleur dès le départ.
C'est tout pour nous, hein.
60 pages. Alors, pas uniquement dans un petit cercle, mais du coup, avec des chaînes d'activités pour vous amuser, même si vous n'avez pas été sage. Voilà.
Je suis le geek, tu es l'adulte, Bertrand le déviant.
Et la couverture, en fait, est plutôt. Voilà, elle annonce la couleur. Donc, on est sur une couverture. On est sur un graphisme qui rappelle un peu les pin-up des années 50-60 qu'on retrouvait aux États-Unis très fréquemment. Donc, des choses quand même très, très, très sexistes hein, dans l'approche. Et là, on a une mère Noël avec une très grosse poitrine, hein, et du coup, qui est assez court vêtue avec des jartelles. Bon, voilà, avec tout ce qui faisait. Les fringues de l'époque, comme si toutes les femmes des années 50-60 aux États-Unis se baladaient comme ça, et qui tient en chaîne un géant avec un boîtier en fait qu'on voit au niveau de sa cheville, hein, comme
ouais,
si assigné à résidence. Et du coup, ce géant, après, peut-être que les gens le connaissent pas, mais c'est Krampus. Krampus, en fait, c'est une espèce de père fouettard qui nous vient d'Europe de l'Est, qui a été remis au goût du jour par le biais d'un film qui s'appelle Krampus, justement, et qu'on revoit de plus en plus. Donc, c'est un peu l'anti-Père Noël. Voilà, il a une hôte, plein de jeunes filles qui sont en train de s'embrasser sur la bouche, qui ont des positions lascives, où on voit assez facilement leur postérieur, ce genre de choses.
C'est honteux.
Et Krampus, tu dis ça parce que tu sais que Madame écoute, oui, ça, madame, voilà, écoute. Bien sûr, il est en train de se racheter une conduite. Krampus tire la langue, voilà, il est soumis à toutes ces jeunes filles. Donc voilà, dès là, on est sur un truc, dès le départ, tu sais que t'achètes pas forcément quelque chose pour les enfants.
Un tout petit poil subversif.
Voilà, complètement. Et tu ouvres cet objet, quand même joliment maquetté, hein, comme à chaque fois avec Label 619. Tu peux te faire une crèche, il faut le savoir. Alors, toi qui détestes en fait les gens qui mettent
des
trucs à découper dans leurs albums, là carrément, ce sont mes amis, ils font un beau pied de nez. Il y a une crèche 619 à faire, donc la crèche 619 elle est taguée de partout, hein. Bien évidemment, il n'y a pas le petit Jésus. Le petit Jésus, il est remplacé par Mutafukaz, figurez-vous. Voilà, ils ont tous leurs personnages emblématiques.
Ils ont fait des copains, quoi.
Exactement, ouais. Donc c'est un truc qui est plutôt rigolo à faire. Je crois qu'ils ont eu l'intelligence de faire un QR code pour éviter d'avoir à découper sa couverture.
Parce qu'il serait quand même, alors, on parle de couverture également de la dernière page,
oui.
Mais il serait quand même honteusement dommage de découper la pin-up de fin de bouquin.
Ce serait assez triste de découper qui est elle-même à découper en l'occurrence, donc...
Ah oui, alors tu choisis soit la crèche, soit la pin-up.
Exactement, c'est soit la crèche, soit la pin-up, fais ton choix. Je crois que j'ai fait mon choix. C'est plutôt malin. Donc on est sur un cahier d'activité assez rigolo. Donc on a, voilà, dans un premier temps, une espèce de simili-courrier des lecteurs qui est finalement un petit mot d'amour de la part de tous ceux qui ont participé. Donc il y a Run, hein, évidemment, il y a Guillaume, il y a Simon Hutt. Donc tout cela écrivent au Père Noël. Bon, voilà, il faut le lire, hein, je vais pas raconter, mais c'est pas forcément des lettres genre j'ai été sage cette année. Après, on a des vraies infos, en fait, il faut le savoir, hein, quand même, il y a Noël dans le monde, donc Noël dans le monde où on revient effectivement sur Krampus. On a Noël, qu'est-ce que je pourrais vous lire qui est quand même intéressant, voilà, tiens, le Noël, je vais vous lire un petit morceau, hein. Pour chasser les ondes négatives, les Guatémaltèques installent un grand diable en papier que l'on brûle au milieu d'une immense montagne de déchets. Pendant que les adultes regardent la bête se réduire en cendres, les enfants font exploser des pétards et des feux d'artifice. Par souci écologique, la Commission nationale de l'environnement met quand même en garde les pratiquants contre l'incinération de caoutchouc. Voilà. Donc Noël, pour les Guatémaltèques, c'est assez rock'n'roll quand même. Enfin, par rapport chez nous, on est clean.
On est hyper sage. Hein.
Bah, qu'après, voilà, il y a des planches de bande dessinée sur l'origine de Santa Claus. Donc, il y a vraiment des trucs à apprendre, mais voilà, à la sauce quand même 619. Et puis après, il y a des jeux un peu débiles qui sont faits par Run que moi j'aime beaucoup. En fait, il y a le One Man Army par exemple. On est d'accord, couvrir l'ensemble de la planète en une nuit seul pour distribuer tous les cadeaux, on peut y arriver avec un peu d'entraînement, mais c'est clairement pas évident. Heureusement, le Père Noël, qui n'a plus 20 ans, a la possibilité de se reposer sur des appuis locaux pour compléter sa mission de distribution, relie le soutien potentiel à sa zone d'action définie. Donc les rois mages, le petit Jésus, la sorcière Benafa, où est-ce qu'ils vont? Est-ce que c'est en Allemagne, en Russie, en Pologne? Donc ça, c'est des points à relier. Des choses où on apprend à chaque fois. Hein. Après, il y a de l'info intox, encore une fois. Bien des mythes circulent sur Noël, et toi, qu'est-ce que t'en penses? La vérité se cache entre les pages 10 et 11. Donc voilà, par exemple, vous saviez qu'au départ, le Père Noël était vert et que c'est à cause des pubs Coca-Cola qu'il est devenu rouge? Info ou intox?
C'est une info. Voilà,
et ben, figure-toi que non, c'est une intox.
Ah ouais, ouais, j'ai vu plein de choses dessus. Donc,
puis après, on a les réponses qui suivent. C'est vraiment bien foutu. Et alors, je me suis un peu planté parce que j'ai parlé de jeux débiles alors que ceux-là, ils sont plutôt des jeux pédagogiques, éducatifs.
Et les débiles maintenant
Alors voilà, c'est ça qui t'intéresse évidemment.
Bah oui.
Ça s'est passé un Noël. Relis l'événement historique au Noël correspondant. Sans être un historien confirmé, un peu de jugeote peut suffire. Alors concentre-toi, bougre d'âne. Noël en 498, Noël en 800, Noël 1642, donc tout ça, voilà, c'est à relier avec des événements. Alors, est-ce que c'est la naissance d'Humphrey Bogart? Est-ce que c'est le décès de James Brown? Est-ce que Hong Kong se rend aux forces japonaises? Il faut relier tout ça. Et puis, voilà, je viens enfin, finalement, de tomber sur le débile. Réveillon au film porno. Alors ça, c'est très bien. D'après toi, ces phrases ont été entendues lors d'un réveillon ou dans un film porno. Fais attention à ce que tu réponds si tu ne veux pas passer pour un ou une petite perverse.
Allez, on joue.
Tu reprendras bien un peu de bûche? Réveillon ou porno?
Réveillon.
Les deux.
J'ai pas les réponses en fait, elles sont à la fin de l'album. Vas-y, déballe le paquet, réveillon ou porno?
Ah, les deux.
Elle est belle ta quête. Elle est belle ta quête, je sais d'où ça vient en fait. Ça vient d'une émission qui s'appelait Striptease, une émission belge qui a été diffusée et qui est mythique hein, aujourd'hui. On en trouve encore les coffrets, c'est assez extraordinaire.
C'est énorme.
C'est l'intention qui compte, je préfère la cuisse, doucement avec les boules, t'endors pas papy, c'est trop, fallait pas, c'est de la part de qui, c'est l'heure de fourrer la dinde, pas tant de bruit, les enfants vont t'entendre, on attend tout le monde pour commencer. On a oublié de mettre le petit Jésus dans la crèche. Voilà. Voilà. Donc, ouais, jusqu'au bout. Et après, il y a des trucs assez géniaux. Moi, j'aime beaucoup l'invasion des robots de Noël par Tony. Alors, c'est pas moi, en l'occurrence, mais dans les années 80, avant la démocratisation des consoles de salon et de l'informatique, oui, cette période a bien existé. Petite conne, c'est pas moi, je lis. Hein. Tous les enfants voulaient un robot sous le sapin, mais un bon robot, ça se mérite. Alors, si tu veux le tien, devine le nom de chaque robot emballé ci-dessous et prouve au Père Noël que c'est pas juste un caprice de plus. Donc, on a des silhouettes de robots célèbres.
Trop bien.
Ouais, il faut essayer de retrouver Boss Borot, Baymax, Big Dog, Spectreman, Westworld, les robots de Westworld. Un Cylon qui est droit sorti de.
C'est Star Trek, les Cylons ?
Non, les Cylons, c'est dans Battlestar Galactica.
Ah oui.
Wally, Vincent, Asimo, R2D2, T800, Robbie, Bender, Robocop, Nono, Astro, Krag. Alors Krag, c'est Capitaine Flamme. Et les Daleks. Les Daleks,
ah, il y a des Daleks.
Ouais, il y a des Daleks, évidemment. Alors même si ce ne sont pas des robots à proprement parler. Non, parce que si je te le donne, tu me le rendras jamais. Et ensuite, il y a des jeux. Voilà, après un réveillon bien arrosé, il faut mieux éviter de reprendre le volant, surtout si on doit faire un long trajet et qu'on ne sait même plus où on habite. Aide chaque convive à retrouver sa maison ou sa planète. Donc il faut savoir d'où vient Alf, d'où vient Ilgege dans les musclés.
Mais,
il faut savoir d'où vient Spock. Oui, c'est terrible, mais bon.
Faut que je m'en
Geek et déviant, hein, tu fais partie des deux catégories. Spock, Jar Jar Binks, la denrée, Arachnid. Les Arachnids sont Starship Troopers, pardon. Supermad, les Conheads, Norinrad, c'est le surfeur d'argent. Temis et Noumaios, c'est dans Ulysse 31. Voilà, c'est ultra référencé années 80, années 90 pour les bons gros geeks et déviants comme Sébastien. Voilà, il y a plein de choses.
Et pas que.
Non, pas que. Voilà. Il y a des planches de BD, il y a plein de bonnes choses. Je pense que c'est le cadeau idéal en fait pour un cousin, pour un ami geek et déviant. J'ai oublié en fait qu'il y avait du pixel art, à savoir en fait des pixels à colorier.
Non.
Avec des toutes petites cases minuscules, on est absolument
on sur un truc à consommer quoi.
On est
sur un cahier de vacances en fait.
Voilà,
c'est
clairement les trucs qui nous emmerdaient l'été nos parents nous obligeaient à faire et qu'on ne faisait jamais. Enfin, en tout cas pour ma part, je faisais jamais.
Et là ils reprennent en fait et qu'on oblige nos enfants, nos petits-enfants à faire.
Voilà, exactement, Noël au cinéma, les programmes pourris de Noël, donc ils sont en train d'inventer des programmes. C'est très bien foutu, il y a même un jeu de loi au milieu. Moi j'aurais envie de dire voilà, dépêchez-vous en fait hein, si vous n'avez pas encore le vôtre, parce qu'à mon avis c'est une des bonnes ventes en librairie en ce moment, parce que l'objet est à la modique somme de 9,95€. Bon, c'est souple,
on aurait tort de s'en priver.
Sous le sapin, c'est du meilleur effet. Allez-y, foncez.
Eh ben, je vais le rajouter sur la liste de mon Papa Noël.
Bah, croisons les doigts pour toi qu'il en reste encore.
Peut-être qu'il m'entende.
Bah, j'essaie, espérons.
Merci Tony,
avec
tu redonnes
plaisir.
toute la ref.
Eh bien écoutez, c'est le cahier de vacances de Noël pour adultes geeks et déviants du label 619 de la maison d'édition Ankama. C'est présenté par Ron et Mangy Ship. Alors je pense que Mangy Ship c'est un studio à mon avis. Voilà, tout simplement.
Aucune idée. j'en fais une petite du coup.
Ah bah, allons-y.
Alors moi je ne savais pas quoi prendre, je vais prendre Optic Squad aux éditions Rue de Sèvres par Bervas et Sylvain Runberg. Je ne savais pas quoi en penser et je vous avoue que je n'avais qu'une seule envie.
Il ne sait toujours pas quoi en penser.
Non, j'avais qu'une seule envie en fait, c'était de bâcher en fait le petit, tu sais, il y a toujours un petit texte des fois qui te donne envie. Et je trouvais tellement dithyrambique que je me suis dit, forcément, ça va être une daube. Et quand tu lis au dos, un thriller dystopique savamment orchestré par Sylvain Runberg et brillamment mis en scène par Stéphane Bervas. Moi, il y a trop de superlatifs.
Savamment et brillamment,
et c'est pas bon.
C'est toujours un peu le alors ça, c'est pas les auteurs, hein, clairement, faut le savoir. Ce sont les éditeurs hein, qui et du coup, on est un peu dans le syndrome du survendu.
Tu veux dire que savamment orchestré, Sylvain Runberg, il va pas dire...
Non, il va pas écrire ça de lui, non. Et je vois pas beaucoup d'auteurs qui seraient capables d'écrire ça de même.
Ce serait
en fait.
Un peu pompeux quand
j'en
même.
Connais quelques-uns, mais bon, il y en a pour beaucoup, voilà. Et c'est souvent les éditeurs ont cœur de bien faire, mais il y a ce réflexe-là chez certains lecteurs comme toi en disant waouh, ouais, ça va les gars, Boulard et non, en fait,
c'est
je vais pas lire.
Et en fait, c'est plutôt pas mal.
Ouais. Bah, donc, je suis pas étonné.
Je vais pas vous faire un résumé parce que du coup, c'est pas ma façon de faire, mais faut imaginer dans un futur. plus ou moins proche, que les États-Unis ont été divisés en trois grosses parties. On a le Western State, le Eastern Democracy et le Saint Union au centre.
Ça rappelle que un peu l'homme du Haut-Château.
Il y a, ouais, mmh, complètement. Et du coup, on a à Seattle une espèce de brigade spécialisée dans l'infiltration qui s'appelle l'Optic Squad, qui est une brigade indépendante, mais dont les budgets sont alloués par le Western State.
Totalement indépendant, donc.
Ouais, mais du coup, enfin voilà, ils ont une marge de manœuvre quand même hyper libre.
D'accord.
Et du coup, ils sont à leur début. Ils ont besoin de budgets assez conséquents puisqu'ils ont une espèce d'implant optique qui permet à leurs agents d'être suivis intégralement lorsqu'ils sont en immersion dans des missions un peu complexes. Comment ça se passe? En fait, les agents sont complètement des agents, les undercover, hein, comme on peut voir des infiltrés. Et ils sont suivis par une équipe qui va pouvoir, grâce à ces implants, soit leur balancer de l'adrénaline, soit les guider un petit peu, et même la possibilité de leur provoquer un arrêt cardiaque si jamais ils devaient se faire torturer ou tuer
dans des
concessions. Et ils sont suivis de très loin par un drone de combat armé qui peut éventuellement intervenir en cas de besoin. Et on va suivre en fait en parallèle les agents, deux agents qui vont être infiltrés dans une espèce ils veulent faire tomber un type qui fait du trafic d'humains, donc truc pas super cool. Et on suit aussi l'équipe qui suit en direct presque à la télé ces deux agents qui sont infiltrés et qui essaient de leur soutenir. Donc on nous met une tension, une pression grâce à cette équipe qui les suit et qui ne sait pas comment réagir. Ils sont toujours sur le fil du rasoir, sur les est-ce qu'on agit et qu'on grille la couverture de nos gars, ou est-ce qu'au contraire on laisse faire et puis on pousse. Et c'est vraiment hyper intéressant, c'est bien foutu. On a une tension vraiment palpable de bout en bout, et c'est vraiment vraiment super intéressant. Alors qu'au départ c'était pas vraiment du tout ma cam. Donc je trouve que là, le premier tome est quand même un petit peu léger, puisqu'on est dans un truc un peu action, un peu, mais on a vraiment une base de posé. Alors, je dis léger sans péjoration, parce que ça a vraiment un système de lecture. C'est hyper fluide dans la lecture, ça se lit quand même assez vite, et c'est hyper intéressant, comme une série d'espionnage presque. Et c'est de l'espionnage, hein, soyons honnêtes, mais ça se suit vraiment très bien et c'est hyper hyper sympa. Le dessin est plutôt agréable, même si moi j'aurais aimé un truc un peu plus fouillé, un peu détaillé, mais dans les scènes d'action ça envoie quand même suffisamment, c'est suffisamment lisible pour que ce soit plaisant à suivre de bout en bout, et ça se passe super bien, et du coup ça peut poser pas mal de questions sur la vie privée de ces agents, dont on peut voir à travers les yeux un peu n'importe quand, même si des règles sont là pour garantir le respect de ces mêmes règles, et comme tout le monde le sait, les règles sont là pour être détournées. Optic Squad, hein, de Stéphane Brevas et Sylvain Runeberg aux éditions Rue de Sèvres. On parle pas beaucoup des éditions Rue de Sèvres dans l'émission, mais c'est à tort parce qu'ils font de très très bons bouquins.
Bien sûr.
Il faudrait que je reparle de Lettres d'amour de 0 à 10. Non, j'ai déjà fait, je crois.
Il me semble, ouais.
J'ai
il
déjà
semble,
fait. Ouais. Donc on a déjà parlé de Rue de Sèvres il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment une belle découverte dont la couve me donnait pas envie du tout. Mais comme beaucoup de bouquins, en fait.
Bah, elle a un petit côté, c'est marrant parce qu'elle me rappelle en fait, alors encore une fois c'est pas du tout péjoratif, mais elle me rappelle ces couvertures qui étaient très en vogue il y a quelques années, presque l'impression qu'on est sur un produit dès le cours des débuts des années 2000.
Il y a un peu.
Alors,
de
je sais
ça,
pas comment ouais. ça va être pris, mais du coup je l'ai dit, donc c'est foutu pour
c'est
moi.
C'est foutu.
Mais voilà, c'est pas. Il y a peut-être une volonté de faire comme ça, hein, de fonctionner.
Alors, peut-être là-dessus. Que c'était une envie. Alors tu vois, j'avoue que je ne suis pas un grand fan de Sylvain Runeberg, même s'il y a quelques albums qui m'ont beaucoup plu. Mais Orbital et On Mars, c'était pas chez Delcourt justement. Peut-être que c'est une volonté aussi de sa part d'avoir quelque
peut-être,
chose qui
peut-être,
rappelle
ouais,
son.
Ouais.
Son
non,
son
Orbital,
univers.
c'était chez Dupuis, Orbital.
Donc peut-être que c'est une envie ou un.
C'est pas impossible en fait.
Le dos est intéressant. Là. Moi je trouvais le dos. Je sais pas.
Mais encore une fois, on est toujours dans le même type.
Ouais,
de...
C'est pas sur le dos que tu vends en toute façon, non, c'est sur la couverture. Ouais.
Mais la couve est pas dégueulasse non plus. Hein.
Non, alors loin de moi l'idée de dire qu'elle était moche. Hein. Pas du tout, du tout, du tout.
Mais c'était. Moi, enfin,
ça m'a rappelé.
Je la trouvais pas accrocheuse en fait.
D'accord. Bah écoute, après. Bon.
Et à côté de ça, j'avais un truc qui m'a beaucoup plus accroché et que, extrêmement bizarrement, j'ai laissé longtemps, mais vraiment très longtemps, dans
trop
ma pile
longtemps.
À lire. Puisque l'album est sorti quand même, j'ai même pas la date, en septembre 2019, donc c'est
ouais,
pas
ça fait
si
quelques
longtemps
temps
que
c'est sorti. Ouais.
Mais je l'ai laissé hyper longtemps, de peur peut-être d'être déçu. Il s'agit des 5 terres de Llewellyn et Reculé, et Le Reculé.
Oui.
Alors Llewellyn qui est quand même un. C'est pas un acronyme, c'est un conglomérat d'auteurs.
Oui, ils sont plusieurs. Ouais.
Parce qu'il s'agit de David Chevelle, Andoris et Wong. Et même Andoris, c'est bien parce que dans ces auteurs-là, on a déjà des gens qui ont des pseudos. C'est toi
c'est
le
ça,
truc.
C'est ça, c'est ça. Qui se charge, bah, du coup. Enfin, il y a que Jérôme qui se charge du dessin. Et après les
alors,
autres.
Pas que, parce que c'est plus complexe que ça.
Non, mais respectivement. Enfin, Jérôme fait le crayonné. Après, il y a de l'ancrage. Après, il y a de la mise en couleur. Enfin, le scénario, c'est Chauvel, hein, évidemment. Mais voilà, ils fonctionnent en studio, tout simplement, parce qu'ils sont partis sur un truc. Mais tu vas en parler mieux que moi. Faut pas non plus que je te bouffe
ta
chronique.
C'est parce qu'effectivement, je reviens en fin de chronique, hein, du coup. Puisqu'il y a un petit cahier.
Oui.
À la fin du tome 1, et du coup c'est ce cahier en fait qui nous éclaire un petit peu sur la façon de produire cet album, qui est un petit peu un travail un peu particulier. Les 5 terres, de quoi ça parle? Eh ben, je vais faire quand même bref et un petit peu réducteur, mais vous avez vu Game of Thrones? Et ben la même chose, sauf que ben, on n'a pas le droit de faire du sexe interespèce, puisqu'il s'agit c'est une série animalière anthropomorphique.
Oui.
Dans un univers, alors, j'allais dire médiéval fantastique, mais il n'y a pas vraiment de fantastique, c'est surtout du médiéval, avec des intrigues policières, intrigues politiques, je suis désolé, la fatigue est dedans, je pars en sucette.
Ça commence pareil.
Et,
comme Polydent, comme...
Du coup, on a cette espèce de d'héritage, on a un roi vieillissant, et les pronostics se font sur les héritiers potentiels, tout en sachant que voilà, il n'avait pas d'enfants, de fils, et que il y a des filles qui normalement n'ont pas le droit d'accéder au trône, sauf une qui a décidé que il n'y a pas de raison et qui va tout faire pour prouver qu'elle a toute légitimité. On a le cousin, c'est le neveu.
Il me semble, ouais.
C'est un jeu de cette famille, presque.
Oui, oui, mais c'est
mais
un
du
peu
coup,
compliqué
voilà.
Quand même.
Le roi, qui est un vieux lion, décide en fait de céder en fait son héritage et son trône à la personne qu'il considère la plus apte, même s'il y a des petites bisbilles, il veut quand même continuer à garder cette autorité. Et du coup, ça donne des choses à la Game of Thrones. Hein. On est très proche quand même de cet univers. C'est une série qui va être, à mon avis, très très longue. J'ai eu quelques petites indiscrétions sur la durée.
Bah, je peux te dire, moi.
Et le nombre d'albums?
Alors, le nombre d'albums, je sais pas, mais je pense que... Enfin, en tout cas, quand j'en avais parlé avec Jérôme, qui est un ami, d'ailleurs, il a fait un fanart dans Drunken Jean, tu as vu la transition.
Ah, trop bien.
Il en prend pour 10 ans. Donc, c'est un contrat très, très, très confortable pour Jérôme. Après, ça va pas être 10 ans de tout repos, hein, parce qu'il faut y aller quand même, hein, faut tomber des planches.
Ils ont prévu un rythme de parution assez
dense.
Fou, hein.
Un truc de dingue. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux dessus, en fait, tout simplement. Hein. C'est pour pouvoir respecter leur rythme de parution. Et tous ceux qui ont lu le premier tome, comme toi, en fait, sont conquis. J'ai pas vu quelqu'un qui m'a dit « Non, je me suis fait chier. » Tout le monde trouve ça
ultra
génial.
Bien. Ouais. Et comme Optic Squad, ça se lit quand même globalement assez vite. Il y a une fluidité, il y a pas mal de textes hein, malgré ça, mais ça se lit, c'est hyper souple dans la lecture, dans la narration. Tout est bien, bien construit et ça fonctionne ultra bien. Le dessin est vraiment très très beau.
C'est
magnifique,
hein.
Il y a un côté, l'anthropomorphisme des animaux est hyper efficace et on côtoie des lézards, on côtoie des singes, on côtoie des cerfs, tout fonctionne bien. Mais c'est hyper,
Non, ça me fait
marrer
parce que pour la petite... Alors encore une fois, du coup, il faut savoir que Jérôme Le Reculé, il a une marotte dans le dessin. Il y a un truc qu'il adore plus que tout.
Dessiner des cerfs.
Dessiner des chevaux. Et en fait, t'en as pas un seul dans cet album. Il n'y a pas de chevaux, si tu regardes bien.
Je crois qu'il y a des chameaux à un moment. Non
oui, mais ils sont jamais à cheval. Ils sont jamais à cheval, concrètement. C'est voilà. Donc, il était un petit peu contrit par ça.
Ah bah, peut-être qu'il va se.
Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des chevaux. Tu vois, mais enfin, pour l'instant, il
n'y a
aucun chevaux dans ce tome-là. Et alors, lui, qui adore ça. Il a même fait un artbook avec Olivier Martin en résidence où tous les deux sont allés dans un hara et ils ont dessiné des chevaux et il est magnifique. C'est un petit objet qui est assez dur à trouver parce que du coup c'est une édition très 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 limitée et là on voit tout l'amour qu'ils ont pour les chevaux.
C'est rigolo parce qu'il paraît qu'en plus les chevaux ça reste quand même quelque chose d'hyper complexe.
Le truc le plus dur au monde à dessiner, enfin en tout cas dans le monde animal, c'est les chevaux. Ouais.
Un album hyper parce qu'en fait on parle
pardon
non mais il y a pas de souci, un album hyper complexe hein, et encore une fois je vous ai exposé brièvement l'univers au début, un univers où il y a certaines règles, comme je le disais pour Optic Squad, c'est aussi valable ici. Les règles sont faites pour être transgressées et en général les auteurs se font un malin plaisir d'imposer des bases pour les virer plus tard et voir les conséquences que ça donne, ce qui est d'autant plus rigolo. On en parlait tout à l'heure, il y a un petit cahier graphique alors, qui reste assez court mais hyper dense avec des ébauches de personnages à la fin, et ce que j'ai trouvé ultra intéressant c'est de voir comment fonctionne le travail en équipe, puisque rien que pour la couverture de l'album on a 6 versions différentes. On a une petite illustration rapide, on a un truc avec des aplats de couleurs, un crayonné, un lettrage, et tout ça en fait, et chacun a fait son petit boulot dans son coin pour au final donner une version finale. La version peinture de la couve de Pierre Ravenot, je trouve ça absolument chamé. Mmh. Je suis Jones, mais je la trouve fabuleuse en fait.
C'est stylé maintenant.
C'est stylé maintenant.
Ouais, c'est stylé maintenant.
Elle est assez stylée. Et ça montre aussi toute l'évolution graphique qu'a pu avoir la couverture, que ce soit dans le lettrage, puisque ça s'appelle les 5 terres. Hein, avant, le 5 était en lettres, et là, il finit en chiffres, et on c'est comprend toute la façon de fonctionner. Et puis, c'est vraiment très, très bon. Bertrand, non ?
Ouais, c'est magnifique. La couverture, elle saute bien aux yeux. Tout le travail est vraiment très... De ce que tu as montré, c'était très détaillé, très beau. Ça avait l'air de se lire très facilement. C'est vraiment
une belle réussite.
C'est vraiment un bel objet, quoi.
Donc là, on s'articule.
Après, quand tu dis Game
Nation.
Of Thrones, juste quand tu dis Game of Thrones, on a l'impression que ça va être quelque chose de violent, etc.
C'est alors violent là, quand même.
Ouais, mais ça a l'air doux quand on le regarde. Enfin, de ce que j'ai vu.
Le dessin est doux, mais il y a des passages
là,
pas.
Un assassinat, mais ça se fait en douceur. Genre, c'est beau.
Mais ne spoil pas, dis donc.
J'en sais rien.
Enfin, t'as parlé de Game of Thrones à un moment donné.
Oui, voilà. S'il n'y a pas des gens qui meurent.
Le parallèle est facile à faire.
Un esclave qui meurt, ça arrive.
C'est pas grave.
Les 5 terres de David Chevelle.
J'ai entendu les sphincters. Je me dis non, je suis fatigué. Mais non, c'est les 5 terres, pardon.
De Llewellyn et le reculé, parce que du coup, autant parler de Llewellyn, puisque c'est leur alter ego graphique.
Ouais.
Et puis, ça passe ultra bien. C'est vraiment un beau bouquin, et c'est aux éditions Delcourt. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas pour le lire. Ce serait dommage. Ou alors vous attendez 10 ans, puisque pour pouvoir lire l'intégrale.
Oui, si vous voulez voir la globalité du truc, ouais, faut attendre 10 ans. Ouais.
C'est clair. Tony, une petite dernière.
Bah ouais, ça peut. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu préfères entre.
Entre Mickey ou Benjamin Lacombe ?
Alors, c'est pas Mickey, en fait, concrètement.
C'est Donald.
Non, c'est Donald, bah, exactement. Alors après, il faut savoir
c'est
que.
C'est son ami.
C'est pas. Ouais, alors en l'occurrence, on est plutôt dans le monde des canards, c'est-à-dire que tu ne verras, tu vois Mickey, hein, mais c'est pas
le journal de.
Picsou
géant, c'est pas Picsou géant, non ?
Hors série Mickey Paradgéant, en l'occurrence, ouais, donc t'as Picsou, t'as qui est un collector, en fait, comme ils en font de temps en temps, des petites perles, donc avec une couverture très aguichante, avec ce qu'on appelle un thermoformage.
Ouais.
Donc c'est assez rigolo, en fait, ils mettent une presse et ils appuient dessus, du coup ça donne des choses en relief qui sont du meilleur effet.
Et elle est dorée en plus.
Elle est dorée, et ça s'appelle Duckenstein et autres contes effrayants. Donc moi j'ai trouvé ça génial, je trouve que, bah, alors déjà, il y a toujours des mômes qui lisent ça et je trouve ça absolument fabuleux qu'ils continuent à lire. Et là, je pense que ce sont des classiques, que ce sont des rééditions. Ce sont les chefs-d'œuvre de fantastique revus par Walt Disney. Donc, en l'occurrence, il y en a 3 dans ce bouquin-là, dans ce gros bouquin-là. Comme on est sur quand même de la grosse page, on est sur 322 pages de bande dessinée pour 5,95€. Donc, on est sur du truc purement imbattable hein, en termes de lecture. Et il revisite Frankenstein, qui du coup devient Duckenstein, Fantomius, donc c'est le fantôme de l'opéra, et puis Belphégor, et Dracula, le Dracula de Bram Stoker, donc ils reprennent effectivement à la sauce Disney. On revoit tous les personnages que moi j'affectionne particulièrement, enfin en tout cas la littérature du 19e, pardon, que j'ai affectionné de lire gamin, et qui a été maintes fois... reprise, que ce soit au cinéma, au théâtre ou autre, et là en l'occurrence à la sauce Disney, c'est génial. Alors c'est très 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 beau encore, il faut le savoir, hein, c'est les Italiens, c'est essentiellement des auteurs italiens qui se sont emparés de ces histoires là. Il faut savoir que les Italiens, pour moi, à mon sens, sont de loin les meilleurs
adaptateurs Disney.
Ouais, je trouve, hein, honnêtement, enfin voilà, vous pouvez voir, c'est très rond, c'est très gras dans l'ancrage, c'est très dynamique, c'est vivant, c'est bien composé, c'est bien foutu de bout en bout. Je suis pas d'une objectivité folle quand je dis ça, mais voilà, moi mais j'ai coup, 43 ans
que ça passe, hein.
Au moment où je suis en train de parler à la radio, et je suis toujours un fan absolu des produits Disney, parce que qu'on aime ou qu'on aime pas, qu'on critique ou qu'on critique pas, il faut quand même reconnaître que ils ont fait énormément pour des générations de lecteurs depuis qu'ils existent et qu'ils font des beaux produits. Et là, du coup,
et ça ne se démode pas beaucoup.
Non, ça se démode pas. Et là, en l'occurrence, tu vois, ils initient les têtes blondes d'aujourd'hui à des classiques qui, à mon avis, passeraient inaperçus s'il n'y avait pas des auteurs pour s'emparer de ces contes-là qui font partie du patrimoine et puis de les ressaucer en se disant peut-être qu'un jour ils vont s'intéresser à l'original, et ne serait-ce que pour ça, c'est bien que ça existe.
Attends, il y a même le Seigneur des Anneaux.
Oui, ouais, il y a un petit peu de fantasy aussi, j'ai oublié de le dire. Il y a plein de choses. Enfin, moi, j'en achète régulièrement. Hein. Je m'en fous, j'ai pas honte. J'achète pour moi. J'achète pour moi. J'ai des filles de 15 et 17 ans qui ne lisent plus ce genre de choses. Mais moi, je trouve ça fabuleux. Et voilà,
tu leur fais des cadeaux pour toi.
Ouais, exactement. Non, mais je l'achète définitivement pour moi. Et franchement, ce serait dommage de passer à côté, parce que des fois, ils font des petits hors-séries comme ça qui sont très
plutôt classe, ouais.
Il y a des super Picsou qui sortent aussi, qui sont collecteurs, qui s'appellent les Trésors de Picsou, où ils ressuscitent vraiment des vieux Picsou avec des trucs très patrimoniaux.
Il y a une fanbase
monumentale. Il y a des auteurs incroyables qui sont passés. Il y a Vince Luce, en l'occurrence, qui est passé par. Qui est passé par Picsou. Donc voilà, n'hésitez pas à les feuilleter, et franchement c'est de la bonne cam.
Eh ben, on va se quitter sur de la bonne cam.
C'est de la bonne cam, c'est parti.
Allez.
That's all, folks.
19h59, c'est le moment pour nous de nous séparer. On vous a rempli les yeux avec de la beauté. On va vous laisser vous remplir les oreilles avec
le gros bazar de Ben. Non, j'ai fait un combo. Non, c'est pas joli en fait quand je le dis comme ça.
Non, ça fait non. T'es resté
ben
coincé
part en live,
tout à l'heure.
C'est ça, hein.
Allez, ça part en live.
Ça part en live, pardon.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Continuez de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku-oni, ore wa naru!
Batman! Oh, la petite ch'touf!
Trop vite! Il est parti de moi ici!
Justement! Les touristes là!